Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Nos chers bambins, ils font leur rentrée, ils courent pour s'habiller, monter dans la voiture, aller à leurs activités, sont pris entre différentes exigences et injonctions, que d'efforts de leur part. Il y a chez nous adultes la fâcheuse habitude de voir les choses de notre point de vue, de considérer les enfants comme des petits adultes. Alors, pour tordre le cou à cette habitude, cette émission ce matin pour ne parler que d'eux, de ce qu'ils vivent, ressentent, pensent, le monde, vu depuis la table à langer ou à hauteur de cartable. Vite couple, vite famille, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en cette semaine de rentrée, ça tombe bien, à croire qu'on réfléchit à ce qu'on dit. Autour du plateau, Marie-Aude Binet, conseillère conjugale et familiale. Bonjour Marie-Aude.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Et Sébastien Dext, sociologue et psychopraticien. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Voilà, ravi de vous retrouver tous les deux pour donc cette émission à hauteur d'enfant. J'ai découvert du coup un mot, alors j'ai l'impression que vraiment tous les mots existent dans la langue française, l'adultocentrisme, l'habitude donc de voir les choses depuis le petit bout de notre lorgnette. L'adultocentrisme, c'est un nom barbare pour une réalité bien présente. Sébastien Dax, on va peut-être commencer par ça.
Oui. Ah oui, je veux bien, parce que notamment dans mon activité de psychothérapeute d'enfants, si je reste adultocentré, c'est-à-dire que je regarde ce qui se passe et je regarde l'enfant à partir de mon regard d'adulte, je vais rater beaucoup de choses du vécu de l'enfant et souvent des perturbations, on va dire, qui font que l'enfant est amené à consulter.
Marie-Aude Binet, est-ce que en fait, notre rôle d'adulte, ce n'est pas d'être à mi-chemin aussi, c'est-à-dire à la fois d'être, de savoir ce qui se passe, et aujourd'hui on va en parler, on sait quand même beaucoup de choses, et en même temps de rester bien à notre place. C'est peut-être normal aussi d'être un peu adultocentré, c'est comme ça qu'on éduque, non ?
Oui, ben l'enfant en plus en a besoin. Il a besoin de sentir qu'il y a un adulte solide en face de lui. En même temps, on le dit hein, très concrètement, quand on veut parler à un enfant, ce qui est bien, c'est de s'agenouiller pour être à même hauteur Dieu. Parce que sinon, pour lui, c'est compliqué. Il a l'impression qu'on lui assène quelque chose qui vient d'en haut, et ça peut le mettre en difficulté pour y répondre. Si on se met à sa hauteur, ben nous, on fait la démarche de descendre vers lui pour le comprendre, l'écouter et vraiment aller vers lui. Et lui, ça lui permet de répondre en se sentant plus en sécurité. Donc vous voyez, c'est même physiquement qu'on peut le jouer ça.
Maintenant, c'est un peu difficile de faire ça tout le temps, parce qu'on finit par marcher en canard dans son appartement ou sa maison, non ?
Peut-être, mais en même temps, c'est bien, parce qu'en vieillissant, ça permet de faire un peu de gymnastique. Mais je pense que c'est l'enfant a besoin... et on va vraiment en parler aujourd'hui, mais de se sentir rassuré, en sécurité. Donc le rejoindre, ça n'est pas nous devenir faibles face à lui, c'est au contraire, et ça Boris Cyrulnik le dit beaucoup, c'est renforcer notre propre autorité, parce que l'enfant va nous accorder beaucoup plus de crédit, il voit qu'on s'intéresse à lui. Et en même temps, nous pouvons poser après une parole beaucoup plus assurée, parce que nous aurons pris le temps de le connaître. Et pour ceux qui ont plusieurs enfants, chaque parent s'aperçoit que chaque enfant étant différent, on ne peut pas poser la parole de la même manière. Donc il faut d'abord s'adresser à l'enfant tel qu'il est lui, et donc apprendre à le connaître.
Voilà, Boris Cyrulnik, on en a parlé ce matin aussi dans le teasing de l'émission, donc neuropsychiatre fort connu, auteur d'ouvrages à succès et qui fait aussi l'actualité en cette rentrée. On y reviendra, puisque Jean-Michel Blanquer lui a donné des responsabilités pour l'éducation nationale. Avant qu'on se penche dans les grandes étapes, on va dire, du développement de l'enfant, entre la vie intra-utérine et puis les 6 ans, on va essayer d'aller jusque-là, dans le temps que l'on a. Depuis quand, en fait, sait-on ce qui se passe? Ça paraît fou quand on entend Boris Cyrulnik donner des conférences où il explique ce qui se vit pour l'enfant dans la vie intra-utérine. Ça date quoi? Des années 60, 70? On cite souvent Françoise Dolto. Qui sont les pionniers en la matière?
Oui, sur la vie intra-utérine, c'est dans les années 70 que ça a commencé vraiment à pouvoir être exploré. De par l'avancée technologique, notamment, je ne me rappelle plus le nom, bien sûr, le fameux examen que les femmes font.
Il y a les échographies, mais c'est vrai que l'imagerie médicale aujourd'hui permet de vraiment voir.
De voir les activités du cerveau et autres, c'est ça ?
Oui, voilà.
Et les grands noms, c'est quoi ? C'est Françoise Dolto ? Qui est-ce qu'il y a d'autres ?
Oui, Françoise Dolto, c'est vraiment la pionnière de celle qui a donné du poids à la parole de l'enfant.
Alors, ça, la vie intra-utérine, qu'est-ce qu'on peut dire d'important sur le sujet ? J'ai vu entre autres que Boris Cyrulnik disait que donc l'enfant reconnaît la voix de la maman, ça on va dire qu'on s'en doutait, mais qu'il il perçoit comment dire, ses humeurs, voire même il y a un début de relation en fait, qui est réellement créé. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet ?
Alors en fait, on sait que le liquide amniotique permet de faire passer tous les contacts. Quand la maman se caresse le ventre, eh bien, en fait, l'enfant va sentir la caresse directement sur sa peau, parce que le liquide amniotique transmet ce toucher, en fait. On sait très bien qu'il y a des vibrations. Et donc, émotionnellement, quand la maman vit quelque chose de plus ou moins intense, les vibrations, l'enfant va les sentir. Donc oui, il y a un contact permanent entre l'enfant et la mère. D'ailleurs, quand la maman est bien au repos, c'est souvent à ce moment-là que l'enfant va se réveiller. C'est-à-dire que lui, il est serein et il se dit « ça y est, je peux bouger » et il va chercher à rentrer en contact. Après, il y a une technique d'accompagnement pendant la grossesse qui s'appelle l'apnonomie et qui permet, dès le quatrième mois, je pense même avant en fait, même au papa, en posant la main sur le ventre de la maman, de faire bouger l'enfant alors que la maman ne sent pas forcément encore l'enfant bouger. Et donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des contacts possibles très très tôt et que l'enfant en a du coup une certaine conscience.
Donc l'enfant peut reconnaître le papa et la maman.
Exactement, très très tôt.
Alors du coup, dans la vie intra-utérine, c'est quoi ? C'est juste en fait une relation physique donc, qui peut se nouer, et puis la reconnaissance des deux parents, il y a un échange de tendresse, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ?
Oui. La modalité principale, comme vient de le dire Marie-Aude, c'est la sensorialité. On pourrait dire que le fœtus et le bébé après par la suite, c'est vraiment des boules sensorielles. Mais ce qui est remarquable, notamment dans le livre de Cyrulnik, là, sur les nourritures affectives, c'est qu'ils ont montré maintenant qu'il y a une activité aussi de rêve. Ça veut dire qu'il y a déjà un appareil préconscient. Alors que il y a quelques années auparavant, je sais pas, 40 ans, 50 ans, alors a fortiori bien plus avant, on pensait que la conscience arrivait presque, j'exagère, mais avec l'âge de raison, quoi. À 7 ans, par exemple, ou avec le fameux, peut-être on y reviendra, stade du miroir, où l'enfant est capable de se reconnaître. Et cette limite de l'apparition de la conscience est en train vraiment de reculer de plus en plus. Elle devient de plus en plus précoce.
L'enfant peut rêver en même temps que sa mère. Ça a été montré justement dans ces études-là.
Incroyable. Oui. Maintenant, si on passe, on va dire, à la phase 0-2 ans, une fois la naissance advenue, puisque c'est comme ça qu'on a l'habitude de compter, la première chose qui me vient au regard des quelques lectures que vous m'aviez suggérées, que tout le monde ne sait pas, c'est le potentiel neuronal, je sais pas, c'est comme ça qu'il faut le dire, des enfants qui est absolument extraordinaire. Ils ont, presque trop de neurones, plus de neurones qu'il n'en faut, et tout est là en gestation, et l'impression qu'il y a une forme d'élimination au fur et à mesure des neurones. Racontez-nous ces espèces d'ébullition en fait.
Alors il n'y a pas forcément une élimination, mais en tout cas il y a
activation ou désactivation.
Un raccordement de ces neurones les uns entre les autres.
C'est ça.
Et comme disait Sébastien, ça se passe d'abord par les cinq sens. L'enfant prend conscience de son environnement à travers les cinq sens. Et ce, dès, on le disait, le ventre de la mère, et bien sûr à la naissance, à travers l'ouïe et le toucher et le goût principalement. Et puis après, il va se développer la vue, et etc. Mais en tout cas, c'est vraiment important de se dire que l'enfant a toute cette capacité et qu'il va être réceptif à son environnement, tant au niveau l'environnement, je dirais, matériel, physique, qu'émotionnel. Donc, ce sont des éponges, les enfants. Et alors après, ils vont réagir d'une manière différente parce qu'en fait, pareil, on dit que la personnalité, on l'a à 18-25 ans, mais en fait, un bébé, il a déjà sa personnalité. Il va être plus ou moins rieur, plus ou moins à chercher le lien avec l'autre, ou plutôt à être resté un peu plus en retrait. On peut déjà percevoir un petit peu le tempérament chez le bébé. Maintenant, il y a la manière dont le parent ou les adultes référents autour vont aller stimuler, chercher ou pas. Et aujourd'hui, c'est clair que depuis une vingtaine d'années, les enfants sont très stimulés très tôt. Voilà. Et qu'en plus, on fait davantage intervenir le père aussi dans cette interaction relationnelle.
Alors ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que évidemment tout passe par les émotions entre 0 et 2 ans, mais que si souvent les enfants ont beaucoup d'énergie, comme on le voit, c'est aussi justement qu'il y a une activité neuronale qui est extrêmement puissante, chose qu'on ne soupçonne pas. Dans Sébastien Daxa, il faut en tenir compte.
Oui, tout à fait. Le monde du nouveau-né, c'est vraiment, moi je le compare presque à de l'astronomie avec l'exploration de l'univers. On est face à une réalité qui a été complètement méconnue et on a sous-évalué, on considérait, moi j'ai un souvenir de ma belle-mère qui disait que ses premiers enfants, on les considérait comme des tubes digestifs. Et ses premiers enfants, ils sont nés dans les années 50, quoi. C'est vraiment rien du tout, quoi. Donc on les emmaillotait, on les bougeait pas, on les nourrissait et point, c'est tout. La vision de ce petit humain a complètement été révolutionnée. Et c'est vrai que l'insistance sur l'interaction est très importante. C'est-à-dire qu'effectivement, l'enfant va naître avec un potentiel, mais que c'est l'interaction sociale, humaine, affective, relationnelle, qui va faire que ces potentiels vont plus ou moins s'actualiser, se réaliser. D'où l'importance de l'accompagnement néonatal, on va dire.
Alors on avance, on peut parler brièvement du cap des 2 ans, la crise du Terrible 2, la première crise d'adolescence, ai-je compris. Mm-hmm. Racontez-nous cette crise d'adolescence à 2 ans. J'avoue que j'ai découvert, hein, c'est...
Bah, c'est le Mario moment où l'enfant va commencer à s'affirmer, c'est-à-dire qu'il va vraiment dire non, voilà. Il va dire non, il va se rebeller, en tout cas. Alors, on a l'impression qu'il fait des caprices, on a l'impression, etc. Alors, le mot caprice n'est pas adapté à un enfant, parce que l'enfant, pour faire des caprices, il faut en avoir la volonté, l'intention. Et un enfant de 2 ans n'a pas cette intention-là. Il ne fait pas exprès d'embêter ses parents. Par contre, il sait quand même là où il peut les toucher. Voilà, il a commencé à comprendre comment sont ses parents. Et d'ailleurs, il ne va pas toucher papa et maman de la même manière.
Quel est le rôle de cette phase d'affirmation de soi, en fait? C'est qu'il y a une forme de distance intérieure qui se prend, c'est l'émergence de...
Une forme d'individuation, et elle est saine. Elle est saine, mais elle peut être très surprenante. Et c'est vrai que dans les anciennes générations, on ne la tolérait pas. Ça n'était pas normal. L'enfant devait obéir, se taire, et c'est tout.
C'est-à-dire que maman qui était adulée s'en prend plein la figure à ce moment-là.
Oui, papa ou maman, voilà, ça c'est clair. Maintenant, c'est quand même une phase, bien sûr, qu'il faut réguler. Parce que si on ne régule pas, l'enfant, c'est ce qu'on appelle après l'enfant roi. C'est-à-dire qu'il a l'impression que tout lui est permis, qu'il peut répondre à papa et maman, faire ce qu'il veut quand il veut. Donc, bien sûr qu'on ne laisse pas l'enfant faire tout ça. Mais c'est important qu'il ait ses moyens d'expression parce qu'il s'individue. C'est-à-dire qu'il est en train de marquer son territoire. Je suis différent de vous. Je suis différent de mon frère, de ma sœur qui sont déjà là, etc. Donc, c'est plutôt sain. Voilà. Maintenant, tous les enfants ne le font pas non plus avec la même intensité. Hein, y en a, ça passe un peu inaperçu, et d'autres, ils se roulent par terre en permanence, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, ça fait partie des phases de développement.
Rassurez-nous, plus la crise est forte, plus c'est bon signe ou pas?
Alors, il y en a qui disent, plus ils la font tôt, moins ils la feront à l'adolescence. On peut essayer de se rassurer comme on peut.
Sébastien Daxa, vous voulez ajouter quelque chose sur cette crise ou...
Oui, cette crise, c'est une crise de développement. C'est ça qui est important à voir. C'est vraiment la conscience de lui-même qui est en train d'émerger. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus capable, l'enfant, de dire « moi » et de dire « je ». Mais ça veut dire qu'il y a un travail justement de séparation de son environnement. Parce que le bébé ou l'enfant seul, ça n'existe pas. On est des êtres humains, les êtres humains sont des êtres de relation. Mais cette relation, il faut aussi qu'elle permette le fait que l'individu aussi se développe et prenne sa place face à d'autres individus. Et ça, émotionnellement aussi, ça remue énormément. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment soutenir, on parle de soutenir l'expérience de l'enfant, parce que c'est ce qui va lui apprendre aussi à gérer ses émotions, à gérer sa frustration, à gérer ses colères. Et ça, c'est un apprentissage essentiel pour tout le reste de sa vie.
Voilà, c'est-à-dire qu'il faut l'accompagner dans le développement du soi, comme on dit, c'est ça?
Exactement, tout à fait, c'est le soi, tout à fait, la conscience de soi.
Alors à ce sujet, vous m'aviez suggéré de me pencher donc sur, entre autres, ce qu'on appelle l'interactionnisme, vous nous expliquerez peut-être tout à l'heure. Et j'ai lu, du coup, à la faveur d'un article, que les enfants pouvaient avoir une forme de conversation intérieure.
Oui.
On sait à quel âge ça commence à se développer, où l'enfant, en fait, commence à se parler à lui-même.
Tout à fait. Alors, c'est pas que ça peut, c'est que ça fait partie du processus, justement, du développement de la conscience de soi.
Mais c'est quoi, c'est 2-3 ans c'est...
Alors, oui, à partir de 2 ans, maintenant, facilement, parce que les enfants étant justement plus stimulés, ils rentrent dans ce processus de plus en plus tôt. Et pour pouvoir développer un jeu, J-E, il faut que l'enfant puisse être capable de prendre, on dit, le rôle des autrui qui l'entourent. C'est-à-dire que, par exemple, je prends une métaphore, mais pour apprendre à jouer au foot, il faut que le joueur il sache aussi quel rôle vont jouer les autres joueurs de son équipe. Et ainsi, il va développer son propre jeu. Et l'enfant, c'est pareil. Il faut qu'il apprenne, on dit, le taking role, la prise de rôle. Alors, il joue à papa, il joue à maman, il joue avec les voitures. C'est là où on le voit jouer tout seul. Alors, c'est important d'apporter justement là un encadrement, on va dire, sécure à l'enfant, pour lui permettre d'élaborer ses rêves et pas de lui dire « mais non, mais tu délires, enfin, alors c'est peut-être un peu trop fort. » Non, reste dans la réalité, les voitures, ça ne vole pas. Mais si, il faut vraiment qu'à cet âge-là, il puisse explorer l'ensemble des pistes de son imagination parce que ça va développer son individualité.
À ce sujet, est-ce que vous pouvez parler un petit peu du jeu J-E-U. Je suis tombé sur cette phrase qui est une invitation faite aux parents. Tracer le territoire de la réalité sans dessécher l'imaginaire. Marie-Eude Binet.
Le jeu est le moyen pour l'enfant, comme dit Sébastien, d'explorer le monde. Et il en a besoin parce que l'imaginaire lui permet de métaboliser, si je prends un gros mot, de métaboliser toutes les informations qu'il reçoit. Heureusement qu'il n'est pas dans la réalité en permanence, parce que ce ne serait pas très drôle pour lui quand même, il ne pourrait pas l'affronter.
Ça veut dire quoi, métaboliser en l'occurrence?
C'est-à-dire qu'en fait, il reçoit beaucoup d'informations dans une journée, émotionnelle, hein, mais aussi matérielle, physique, physiologique. Il est en transformation permanente. Et du coup, il faut qu'il mette tout ça en forme. Et le jeu va lui permettre de le faire de manière assez légère et de manière assez sécuritaire. Parce que du coup, il peut le faire, de manière tranquille. Mais là où c'est important que le parent soit là, c'est non pas pour lui dire, en effet, c'est pas bien ou c'est pas comme ça. C'est, tu fais comme ça et comment ça se fait, etc. Et ensuite, de lui poser des limites. J'ai envie de sauter dans la piscine. Le parent, il va dire, oui, t'as envie de faire le dauphin. Okay,
j'aimerais bien voler aussi.
Mais on va mettre les brassards parce que c'est dangereux. Voilà. Et donc, le parent va sécuriser l'imaginaire de l'enfant. Mais pas lui dire, non, c'est interdit, tu vas pas dans la piscine, etc. Donc, c'est tout un accompagnement. Mais ça demande souvent aux parents eux-mêmes d'être en propre sécurité. C'est-à-dire de savoir comment accompagner l'enfant et distinguer le moment où il faut lui poser la limite. Par rapport, et même le frustrer à certains moments, et puis d'autres moments où il faut lui laisser libre cours. Donc je pense que ça, c'est en termes éducatifs, de favoriser des moments où on est avec l'enfant pour jouer avec lui et le laisser dérouler son imaginaire, et même quelquefois dans des jeux de société, et le laisser aussi peut-être changer un peu la règle pour l'adapter à son âge, l'adapter à son développement. Et puis progressivement, lui faire prendre conscience que ça se fait plutôt comme ça, mais parce qu'il va comprendre. Il faut lui laisser le temps de comprendre.
Est-ce que vous pouvez dire un mot, avant qu'on fasse une première pause, donc des deux autres grandes étapes, si j'ai bien compris, que sont les deux autres caps, que sont les 4 ans et les 6 ans? Pourquoi on choisit ces deux âges et qu'est-ce qui se joue à ce moment-là?
Alors, je vais juste continuer sur le jeu, mais en relation avec ces âges-là. C'est-à-dire que l'apprentissage là, de cette phase, c'est en anglais, il y a deux mots. Il y a « play » et « game ». En français, on n'a que le terme « jeu », « jouer ». Mais le « play », c'est le jeu libre. C'est-à-dire, c'est toute cette phase, mais jusqu'à 4-5 ans même, on peut aller tranquillement avec l'enfant, c'est que l'enfant va faire voler, voilà ce qui ne vole pas normalement, ou inventer, être dans l'imagination. Mais petit à petit, et ce n'est pas un hasard, bien sûr, si ça s'accompagne aussi de l'entrée à l'école avec la grande section et a fortiori le CP, par exemple, c'est que là, on va rentrer après dans le jeu réglementé. C'est-à-dire qu'il va être capable d'incorporer des règles et de les respecter pour pouvoir jouer avec autrui. Donc, ce qui est important, là, c'est de voir entre 4 et 7 ans, c'est que l'enfant se construit, mais de plus en plus dans l'impact et dans la relation avec les autres enfants aussi. Le rôle des pères, comme on dit, déjà à 7 ans, ça devient de plus en plus important. Or, après 7 ans, ça vient aussi beaucoup de la Bible, l'âge de raison, mais ça vient aussi maintenant de ce qu'on disait tout à l'heure du stade du miroir, c'est-à-dire que l'enfant est un des rares mammifères à pouvoir se reconnaître dans un miroir.
Enfin, il se reconnaît dans un miroir avant l'âge de 7 ans.
Oui, oui, bien avant. Maintenant, à un an et demi.
À 18 mois.
Oui, on dit un an et demi. Alors avant, c'était 3 ans. Mais on recule, pareil, on se rend compte. Voilà. Mais la conscience réflexive, à 7 ans, elle devient beaucoup plus. L'enfant est capable de plus en plus d'articuler des raisonnements, même des raisonnements éthiques, des raisonnements...
Qu'est-ce qui se passe exactement pour qu'il y ait ce passage dans l'âge de raison, en fait ? Est-ce qu'on sait neuronalement ou...
Oui, il y a un aménagement des réseaux neuronaux, ça c'est sûr. Après, dans le détail exactement, je ne sais pas le traduire exactement, hein, c'est clair. Hein. Mais voilà, entre 6 et 7 ans, c'est ça, c'est... c'est l'ouverture vraiment qui commence vers les autres, ça c'est sûr, ouais, sur l'interaction.
On va faire une première pause et puis on va vous retrouver, entre autres donc, pour parler de la théorie de l'attachement dont Boris Cyrulnik a parlé en cette rentrée. Il va même sortir un ouvrage, il a sorti un ouvrage, on est le combien aujourd'hui ? Oui, il sort demain un ouvrage, « Préparer les petits à la maternelle », paru aux éditions Odile Jacob, et il a, semble-t-il, été en partie missionné par le ministre de l'Éducation nationale pour vulgariser cette notion d'attachement, de « secure », comme on dit en anglais. On voit ça après la pause musicale.
Emmanuel Pella.
Vite coupe, vite famille, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin autour du plateau. Marie-Aude Binet, conseillère conjugale et familiale et chroniqueuse pour Radio Présence dans la matinale, et Sébastien Dex, sociologue et psychopraticien. On parle aujourd'hui des étapes du développement de l'enfant. On va donc se pencher sur cette théorie de l'attachement. Je le disais avant la pause, mais je le redis, Boris Cyrulnik, donc neuropsychiatre fort célèbre, auteur d'ouvrages grand public à succès, a été chargé par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, de conduire les assises de la maternelle qui ont eu lieu en mars 2018. Je le dis parce que je ne l'avais pas vu, donc j'imagine que je n'étais pas le seul. Et donc, va publier cette semaine « Préparer les petits à la maternelle » écrit donc aux éditions Odile Jacob. Donc, il vulgarise la notion d'attachement. En tout cas, il travaille, entre autres en France, à son développement. Expliquez-nous, Sébastien Dex, cette théorie de l'attachement « secure » ou « insécure », bon, moi je vais le faire avec mon
secure
accent.
Ou insécure, on peut dire.
Quand est-ce qu'on a découvert ça ? Qui a découvert ça ?
Alors en fait, le vraiment le.
Et qu'est-ce que ça veut dire, bien sûr?
Oui, bien sûr. Or, l'attachement, c'est la capacité à créer du lien entre deux humains. Voilà, déjà du lien. Et Bowlby, qui est un psychologue du début enfin, des années 50, fait l'hypothèse et va la prouver par des expériences, justement, que l'être humain fait partie des mammifères et qu'une des caractéristiques des mammifères, c'est justement un côté inné à créer du lien avec les personnes qui prennent soin de lui, notamment au moment de la venue au monde de ce petit mammifère. Grosso modo, c'est ça, l'attachement. Et ensuite...
C'est une relation peu commune, c'est une forme de relation extrêmement forte qui devient une sécurité comme fondamentale chez l'enfant, c'est ça?
C'est très important parce que l'être humain en plus a la caractéristique d'arriver au monde pas du tout fini. C'est-à-dire qu'un petit bébé naissant n'est pas capable de se débrouiller tout seul, or qu'il y a des mammifères qui peuvent. Ça veut dire que la notion de dépendance et de l'importance de la figure d'attachement, on dit, est essentielle à sa survie, non pas à son développement seulement, mais à sa survie. Donc ça, c'est vraiment énorme, et c'est pour ça que ça va avoir, comme on le disait en off, là, une importance si remarquable sur notre vie d'adulte.
Alors voilà. Boris Cyrulnik, dans une conférence que j'ai vue, prend l'exemple par la négative et il parle de ces fameux enfants en Roumanie, dans les orphelinats roumains lors de la dictature soviétique. Et il explique que les Occidentaux se sont précipités une fois découvert ces orphelinats et la situation de détresse dans laquelle étaient ces enfants, se sont précipités sur les enfants et les enfants ont eu peur et ont eu des réactions extrêmement violentes. Là, pour le coup, c'est des enfants qui ne sont pas du tout sécurisés. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par réfléchir par la négative? Ça donne quoi, en fait, quand un enfant n'a pas été habitué à créer du lien comme ça et à une forme d'insécurité affective fondamentale?
Alors, ça peut avoir plusieurs conséquences, parce que, pareil, ça va dépendre un peu de l'enfant. En tout cas, ça peut créer des maladies mentales, ça, on le sait, de toute façon. Mais après, ça peut surtout créer donc, une difficulté à rentrer en lien avec l'autre, à le laisser venir vers soi ou soit aller vers l'autre. Donc, ça peut donner des comportements fuyants, des comportements agressifs ou, au contraire, des comportements de demande, demande excessive d'affection. Et du coup, une difficulté à s'autonomiser dans la vie et à être tout le temps en recherche de l'autre. Voilà. Donc, ça va dépendre un petit peu de la réaction. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça met en difficulté pour vivre, je dirais... Alors, je pars de l'excès, je vais faire comme Boris Cyrulnik, en excès, ça rend associable quelque part. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être... on ne peut pas se sentir à sa place, on ne peut pas être en lien de manière sereine avec l'autre.
Alors Boris Cyrulnik dit aussi qu'il y a 2 enfants sur 3, donc une forme d'attachement sécurisé, en tout cas c'est comme ça que je vais l'appeler, et qu'un enfant sur 3 aurait une forme d'attachement justement insécurisé. Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents sur ce sujet pour les accompagner, Sébastien Dex? Comment on crée cette relation de sécurité en fait?
Alors, déjà, je pense qu'il faut dire aux parents qui se trouvent dans cette situation, c'est d'essayer de ne pas culpabiliser, comme on disait tout à l'heure. Parce que, justement, la culpabilité, le malaise, l'inconfort intérieur du parent est la plupart du temps une raison pour lesquelles ils ont eu du mal à créer ce lien avec leur enfant.
Voilà, il faut dire que souvent, c'est le fruit aussi de situations difficiles. C'est-à-dire, les parents sont en conflit ou il y a de la violence dans la famille.
Quelque chose qui participe à l'insécurité, à un climat d'insécurité psychologique, on dit. C'est-à-dire où l'intégrité de la personne n'est pas respectée, que ce soit sur le plan physique, sur le plan émotionnel. Or, il y a des papas et des mamans qui veulent très bien faire, accompagner sur l'émotion, mais qui, au lieu de laisser l'émotion être vécue par l'enfant, vont, entre guillemets, un petit peu trop s'identifier ou la rapter, on dit la voler, quoi, quelque part. Et donc, ça donne le sentiment à l'enfant de ne pas être capable. Donc
Dire quoi? Vous pouvez préciser ce que vous expliquez?
Par exemple, des parents qui prennent trop l'émotion de l'enfant sur eux-mêmes, par empathie, on dit fusionnelle, quelque part. C'est-à-dire qu'ils ne gardent plus la distance, comme on disait tout à l'heure, et ils se mettent trop à la place d'eux. Mais l'enfant, il est dépossédé après de son vécu émotionnel, et surtout, il n'apprend pas à faire avec. Et donc là, ça crée justement ce qu'on appelle un défaut dans la relation soi-objet. C'est-à-dire que l'enfant dans le climat sécure ou dans le climat insécure, il va apprendre à devenir un bon accompagnant pour sa réalité intérieure. Et ça, c'est un déterminant très important dans tout le vécu psychologique par la suite.
Donc, on va dire, en l'occurrence, un parent trop fusionnel, c'est comme une dépossession, en fait, de du développement de cette capacité.
Exactement. C'est Alors, c'est les extrêmes. C'est soit le parent trop distant, soit trop fusionnel. Donc, la juste distance est une notion clé dans cette théorie de l'attachement.
Mariotte Binet, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, parce que c'est aussi les situations où l'enfant finit par prendre en charge son propre parent. Dans un manque de distance émotionnelle ou psychologique.
Mais ça peut arriver très tôt, parce que on parle de la petite enfance, là.
Très tôt. C'est assez particulier de voir des enfants de 2 ans qui sont en capacité d'aller calmer leurs parents, de s'interposer dans des violences conjugales, etc. Donc ils prennent des rôles qui ne leur appartiennent pas normalement et qui font que, ils construisent une forme d'insécurité parce qu'en fait, ils rassurent les autres, mais personne ne les rassure. Et ça peut être aussi compliqué. Après, il y a aussi, vous disiez, qu'est-ce qui fait qu'on est en difficulté ?
Je vous coupe, excusez-moi, mais 1 sur 3, c'est quand même énorme.
Ça fait beaucoup.
Mais parce qu'il n'y a pas une famille sur 3 qui est dans une situation d'insécurité profonde parce qu'il y a des violences familiales et autres.
Ce n'est pas forcément ces situations-là. Mais on peut avoir été soi-même dans une difficulté de construction. On la porte en soi, homme ou femme, et... C'est pas qu'on veut la transmettre, mais c'est qu'on a une façon de rentrer en relation avec son enfant qui est déjà un petit peu, je vais utiliser un gros mot, mais un peu dysfonctionnante. Et donc l'enfant, il la porte. Et puis après, on peut pas faire une généralité non plus, parce qu'une famille où il y a 4 enfants, il peut y avoir qu'un des 4 enfants qui va vivre ce malaise, ou vivre cette difficulté à se construire affectivement, soit parce que les circonstances dans lesquelles il est arrivé sont particulières, il y a eu peut-être une période de déménagement, une période de chômage, enfin il peut y avoir plein de choses.
Oui, un coup de déprime de la maman.
Voilà, il peut y avoir plein de choses, soit parce que c'est comme ça, c'est aussi l'enfant. Enfin, à un moment donné, il ne faut pas non plus déposséder l'enfant de sa propre capacité à lui à répondre à ce que ses parents lui offrent ou ne lui offrent pas. C'est aussi, je pense que l'enfant était considéré comme un petit animal avant. Aujourd'hui, on sait que justement, il se construit. Donc, on peut aussi lui redonner une forme de responsabilité. Et plus il grandit, plus il a la responsabilité aussi, même si elle n'est pas complètement consciente, du jeu relationnel dans lequel il se situe.
J'aimerais qu'on parle un petit peu des conséquences à l'âge adulte. Il ne s'agit pas de se rendre malade, mais de regarder les choses en face. Et puis on verra, en tout cas c'est ce qu'explique Boris Cyrulnik, donc j'imagine que vous ne dites pas le contraire, que tout ça se traverse, ça se dépasse. Par exemple, les adultes distants, évitants, donc j'imagine quand on a été insécurisé, des personnes qui ont un haut niveau d'indépendance, qui évitent l'attachement affectif, qui ont le sentiment d'être comme autosuffisants, on a l'impression de lire l'affiche d'un célibataire bien dans ses basket qui ne cherche pas à avoir de relations, on va dire, profondes et durables. C'est troublant quand même de lire ça, Sébastien Dex.
C'est-à-dire que lorsque, en tant qu'enfant, je n'ai pas été sécurisé sur la qualité du lien à l'autre, quand je suis adulte, dans l'amitié, dans l'amour, dans les relations familiales ou entre collègues, n'importe, je vais éviter souvent de prendre le risque de m'attacher par peur de rejouer finalement la déception, l'angoisse, la tristesse première de mon enfance, par exemple. Et donc, c'est un mécanisme, on va dire, de défense ou de protection, moi je préfère, d'éviter de m'engager. Souvent, le terme d'engagement est très important parce qu'au moins, je maîtrise quelque chose. C'est-à-dire que c'est moi qui décide de ne pas m'engager, alors que quelque part, je subis de me faire larguer. Excusez-moi du terme, de me faire larguer plutôt sur le plan amoureux, abandonné par mes parents, trahi par mes amis.
Non, mais on plaisante, mais
c'est... Oui, c'est comme ça que c'est vécu.
On peut se reconnaître là-dedans, ou on en connaît tous.
Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Et donc, l'anticipation de la crainte, parce que j'ai vécu ces situations d'insécurité, font que par protection, je vais éviter ces situations. Et
on le vit de manière inconsciente, en fait.
Alors, la plupart du temps, une des tâches justement du travail thérapeutique, c'est dans un climat justement de sécurité, dans la relation d'aide, on va dire, de permettre de prendre conscience de ces mécanismes pour pouvoir les déjouer et pour pouvoir prendre des petits risques au fur et à mesure et de nouveau, de soigner cet attachement.
J'ai trouvé un autre profil, l'adulte anxieux soucieux, qui cherche lui un haut niveau d'intimité, d'approbation, de réponse à l'initiative de la part des partenaires, se montre excessivement dépendant. Ils ont tendance à être moins confiants, à adopter une vision moins positive d'eux-mêmes et de leurs partenaires, souvent impulsivité, voilà, haut niveau d'expression des sentiments, etc. Voilà, qui ne se reconnaît pas, ou alors, qui ne connaît pas aussi quelqu'un qui est comme ça.
En fait, un enfant qui a eu trop ou pas assez d'affection peut être soit l'un ou l'autre profil. Voilà, c'est pas une cause qui donne forcément une conséquence, hein, ça peut être croisé. En tout cas, dans des couples, on peut se retrouver avec des couples où il y a un de chaque. Donc évidemment, ça crée des conflits extrêmement importants, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va être évitant et l'autre en demande fusionnelle.
Donc, courage là, c'est...
C'est très très compliqué. Donc, toute une relecture de la construction affective à faire. Et souvent, les personnes évitantes ne veulent pas faire cette relecture. Elles ont beaucoup de mal à la faire, parce qu'elles sont évitantes jusqu'au bout. Tout va bien. Voilà. Alors que la personne qui est en forte demande affective va finir par s'apercevoir que son manque d'autonomie l'handicape, en fait. Donc, il y a tout un travail à faire.
C'est-à-dire que c'est plus facile à reconnaître quand on, quand on est trop en demande que pas
assez,
c'est ça ?
Tout à fait. Et en plus, ça peut prendre différentes formes, hein, parce que la demande affective, elle peut être soit sur « j'ai besoin d'être tout le temps avec toi », mais ça peut être des demandes sexuelles beaucoup, très récurrentes. Et l'évitement, ça peut être « je reste enfermée dans ma chambre ou derrière mon ordinateur », comme ça peut être « je préfère partir en voyage sans toi ». Enfin, il y a plusieurs formes, d'accord ? C'est chaque personne qui va le mettre en place d'une manière différente. Mais en tout cas, quand ça se vit en couple, ça crée des situations conjugales vraiment très douloureuses, et pour l'un et pour l'autre. Parce que l'évitant se sent envahi, l'autre se sent rejeté, celui qui en demande fusionnelle, donc c'est blessant. Et c'est vrai que ça demande un travail personnel et conjugal qui souvent est assez profond et demande du temps.
Alors juste pour les enfants, si on doit finir avant de faire une deuxième pause musicale, et pour les parents de ces enfants, est-ce qu'il y a des quelques grandes règles qui aident justement à accompagner les adultes, puisqu'il n'y a pas seulement les parents, hein, il peut y avoir des figures d'attachement aussi secondaires. En tout cas, c'est ce que va développer Boris Cyrulnik dans son livre « La préparer les petits à la maternelle ». Il a cette phrase, hein, « les enseignants ont souvent un très bon niveau universitaire, mais aucune formation pour s'occuper d'un petit enfant ». Et puis dans cette théorie de l'attachement, il y a le fait que voilà, il faut pas imaginer qu'il y a que maman, puis il y a maman, papa, et puis il peut y avoir des tiers. Il parle même de 3 ou 4 adultes, disons que c'est le bon ratio. Mais bref, c'est quoi les 2-3 conseils à donner à tous ces adultes, Sébastien Dex? Parce qu'on imagine que il suffit pas d'ouvrir les bras, puisque on fait avec ce qu'on est aussi. Donc
oui, mais déjà c'est apprendre à savoir qui on est. Je crois que ça c'est déjà un bon début, c'est-à-dire à être lucide, à faire le point sur soi-même. Et à essayer d'aller guérir peut-être nos propres blessures ou nos propres angoisses, nos propres manques, réévaluer nos besoins aussi affectifs en tant qu'adulte. Et après, dans la relation, je crois vraiment, moi, à une continuité, entre guillemets, ce qu'on appelle des relations humaines, c'est-à-dire que les ingrédients qui sont bons pour la croissance, les ingrédients qui sont bons pour la vie de couple, les ingrédients qui sont bons pour une bonne thérapie, pour une bonne médiation, ce sont à peu près toujours les mêmes. Et je crois qu'il faudrait vraiment, moi ça, je pense, que les gens apprennent de plus en plus à être dans une capacité donc, d'authenticité vis-à-vis d'eux-mêmes, parce que ça veut dire aussi être capable de se regarder avec empathie et amour pour soi-même, parce que c'est difficile de créer ce lien avec l'autre si déjà je ne l'ai pas avec moi. Et ensuite, eh bien, apporter cette empathie et ce qu'on dit vraiment, cette inconditionnalité de l'amour qui est repris par Winnicott, par exemple, dans le holding, c'est-à-dire le cadre, mais le caring, vraiment le prendre soin. Et tous les psychologues, finalement, sont d'accord sur les bonnes conditions. C'est vraiment l'écoute, le dialogue, le respect, l'empathie, le non-jugement, la chaleur, la qualité de présence et la consistance de l'adulte. Voilà, donc il y a du job pour les adultes.
Mariotte Binet, la qualité de présence, c'est ça. Quand je disais, il suffit pas d'ouvrir les bras, non. C'est qu'on peut imaginer que couvrir son enfant d'affection, c'est en fait une manière de le sécuriser, mais plus profondément, c'est on a l'impression que c'est presque déjà en fait d'être d'être bien face à face, en fait, à vous entendre.
C'est... Alors, prendre l'enfant dans les bras, lui faire des bisous, oui, c'est important. L'enfant a besoin de manifestations affectives, hein, parce que ça le sécurise. En même temps, il a aussi besoin qu'on prenne du temps pour lui, du temps pour l'écouter, du temps pour voir comment il grandit, voir quels sont ses centres d'intérêt. Et c'est vrai qu'en tant que parent, comment dans l'emploi du temps, je case, entre guillemets, des moments où je vais être avec mon enfant. Il n'y a pas forcément tous les enfants en même temps, mais un enfant à la fois, lors d'un repas, lors d'une activité particulière. Et puis, quels sont les temps en famille que l'on prend. Et ça, l'enfant est très sensible à ça, à voir le parent qui va éteindre son ordinateur, qui va laisser, ne pas répondre à son portable alors qu'un appel est là, parce que je suis avec toi et je reste avec toi, tu es plus important que le reste. L'enfant a besoin de sentir qu'il est important aux yeux de ses parents.
Qu'il est premier parfois aussi.
Alors pas forcément premier, parce que là ce serait
induire en erreur. Dans certaines situations.
Voilà, mais en tout cas qu'il est important et suffisamment important pour qu'on s'arrête pour lui, qu'on prenne du temps pour lui.
On va faire une deuxième pause et puis on va finir cette émission en donnant quelques pistes, formation en crèche, en maternelle, quelques conseils aux parents et puis on finira cette émission puisque c'est hélas d'actualité sur les situations de maltraitance, je pense donc au Grenelle de la violence faite aux femmes. Vous me disiez en préparant l'émission que quand il y a des violences conjugales, l'enfant est victime, même s'il n'est pas lui directement impacté, il est victime d'une forme de maltraitance.
Présence aux portes du Tarn, 97.9.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Vite coupe, vite famille, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Aujourd'hui, nous parlons des étapes du développement de l'enfant avec Marie-Aude Binet, conseillère conjugale et familiale, et Sébastien Dex, sociologue et psychopraticien. Une dernière partie, donc, que faire après avoir vu rapidement les grandes étapes du développement de l'enfant entre la vie intra-utérine et le cap de l'âge de raison, et puis d'avoir parlé de cette fameuse théorie de l'attachement, donowc découverte par un certain Bowlby, psychiatre et psychanalyste britannique dans les années 50, et aujourd'hui donc vulgarisé en partie par Boris Cyrulnik. On en a parlé plusieurs fois. Si on doit faire écho à ce que semble-t-il Jean-Michel Blanquer, donc ministre de l'Éducation nationale, a demandé à Boris Cyrulnik de travailler à la conscientisation par toutes les personnes qui interviennent auprès des jeunes enfants de l'importance de la théorie de l'attachement, on y lit, et d'ailleurs c'est ce qu'il dit dans un article publié dans le journal La Croix le 2 septembre dernier, qu'il faut que les assistantes maternelles, qu'en crèche, que les enseignants n'aient pas peur en fait de participer de cet attachement. C'est à une époque où il faut toujours apprendre à être à distance, à juste place, etc. Ça paraît un peu contradictoire, Sébastien Dex, comme message.
Oui, ça peut le paraître. Et c'est vrai qu'en France, on est dans une culture, notamment de tout ce qui est éducation psy, ou éducation spécialisée, tout ça, où il y a la distance professionnelle, où ça a été très imprimé par l'apport des psychanalyses, où il fallait vraiment une...
Par exemple, excusez-moi, mais en crèche, oui. En crèche, on demande aux assistantes, comment on appelle ça, assistantes maternelles, c'est ça?
Oui.
Bref, aux personnes qui travaillent en crèche, de ne pas créer d'attachement avec l'enfant.
Tout à fait.
Alors, pas trop les câliner, pas trop les embrasser,
exactement.
Etc.
Alors, bien sûr, il faut garder mesure. Mais vraiment, moi, je crois que c'est une très bonne chose de renverser un petit peu ce modèle-là professionnel de la distance, de l'abstention, vraiment. Parce que l'enfant, et notamment quand il rentre à la crèche ou à 3 ans à l'école, il a besoin, c'est un besoin que l'on ne peut pas satisfaire, ce besoin d'être en relation et d'être en relation affective. Alors, souvent, parce qu'on dit affective, on croit que ça va être fusionnel.
C'est une relation vraie et profonde.
C'est une relation vraie, authentique. C'est-à-dire qu'on peut ressentir aussi des sentiments, on peut les exprimer, on peut recevoir les sentiments de l'enfant. Il y a quelque chose qui est vraiment très important pour sa construction.
Et il ne suffit pas que les parents, en fait, jouent ce rôle, si je comprends Boris Cyrulnik. C'est-à-dire que tout le monde doit s'y coller d'une certaine manière, Marie-Aude Binet, non ? C'est un environnement éducatif ?
Oui, ben en fait, je dirais que c'est prendre en considération l'enfant et le prendre comme une personne dans son intégralité. Dans son intégrité, il a des besoins affectifs, il a des besoins d'apprendre. Il a des besoins relationnels, il a des besoins physiologiques, voilà. Mais du coup, c'est le prendre totalement, globalement.
Quand on lit que Boris Cyrulnik, qui dit, je l'ai cité tout à l'heure, tous ces enseignants ou autres professionnels ont un très beau niveau universitaire, mais aucune formation pour s'occuper des petits-enfants,
oui,
on tombe de sa chaise quand même,
voilà,
quand on lit ça,
non ? Alors, les assistantes maternelles, je rectifierai, les nounous, elles ont une formation. Maintenant, elles l'ont un peu plus, en tout cas, qu'avant. Mais c'est vrai que dans le milieu de l'éducation nationale, ils ont très peu d'informations là-dessus, sauf des formations continues qu'ils doivent faire par eux-mêmes ensuite dans leur cursus.
Ça fait pas partie du kit de base. C'est...
Très peu. Et aussi bien dans le privé que dans le public. Hein. Et ils sont pas très au courant non plus du développement de l'adolescent. Donc, en fait, c'est sur tout le long de la croissance. Et c'est vrai que ça peut mettre à mal même les professeurs eux-mêmes, parce qu'ils peuvent se sentir un peu perdus. Et face à une classe où ils sont peut-être entre 25 et 30, quand il y a autant de personnalités affectives que d'enfants, ça peut être aussi compliqué. Après, c'est aussi le rôle des ATSEM, hein, ces personnes qui, en maternelle, aident les instituteurs à accompagner les enfants. Souvent, c'est elles qui remplissent un peu plus ce rôle affectif et d'attachement. Après, là où on peut être dans une certaine prudence, c'est que comme les professeurs des écoles ne connaissent pas le milieu familial de l'enfant, il peut y avoir, entre guillemets, un risque de trop s'attacher à l'enfant si l'enfant est en insécurité dans sa famille. Donc le déplacement, il peut être un peu embêtant, parce qu'en changeant de classe, l'enfant peut être très déstabilisé. Mais après, c'est un risque.
C'est une question de mesure, non ?
C'est une question de mesure. Tout à fait. Après, je pense qu'il est important de pouvoir répondre à l'enfant. Alors, il y a quand même beaucoup de méthodes qui ont été utilisées, Montessori, etc., qui permettent justement de permettre à l'enfant de se développer de manière sécure, tant dans ses apprentissages que dans le côté affectif. Des modèles comme en Finlande, dans les pays du Nord, montrent que c'est possible. Maintenant, on est quand même dans des contextes culturels différents d'un pays à l'autre. Et en France, ça met du temps à émerger parce qu'en effet, il y a la psychanalyse qui a beaucoup quand même influencé notre manière d'appréhender la psychologie. Et puis aussi, une façon assez patriarcale et une notion d'autorité dans notre pays qui fait qu'on reste dans une distance entre l'adulte et l'enfant.
Voilà, et Jean-Michel Blanquer, justement, qui a un mot sur ces différentes cultures éducatives, toujours dans cette interview, alors c'était pas le journal La Croix, Ouest-France, le 2 septembre dernier. Il dit la chose suivante: on voit les résultats dans les enquêtes scolaires PISA et de l'OCDE, les Finlandais ont les mêmes résultats que les Japonais et les Chinois, alors que psychologiquement les élèves de ces pays, donc la Chine et le Japon, sont cassés, explique-t-il. Si on finissait donc par on a deux bonnes minutes, ça fera une introduction peut-être à une autre émission et puis un écho avec l'actualité, donc c'est ce Grenelle des violences faites aux femmes. Que dire aussi de l'importance de la formation pour tous ces accompagnants de la petite enfance, professionnels ou parents, des situations de maltraitance, Sébastien Dax?
Oui, je crois que c'est essentiel que l'adulte, a fortiori les adultes qui sont responsables d'enfants, prennent vraiment conscience que leur manière d'entrer en relation avec les enfants a un impact réel sur l'enfant. C'est-à-dire que vraiment, quand on parle de maltraitance, moi je suis assez attaché à une auteure qui s'appelle Alice Miller, or qui a été très loin, mais qui parle de maltraitance quotidienne, de maltraitance éducative, et actuellement quand même tous les travaux qui traitent des sciences cognitives par exemple, montrent l'impact, on va dire, dévastateur de petites maltraitances.
Alors c'est quoi ces maltraitances? Quand vous parlez de maltraitance quotidienne, on tremble, ça ressemble à quoi?
Oui, alors des mots. Les mots peuvent faire très mal, par exemple. Quand on traite son fils de taré ou t'es nul parce que t'arrives pas à faire ça ou t'es pas un garçon parce que tu pleures par exemple, tous ces mots, on dit c'est pas grave. Mais sur le développement de l'enfant, affectif et neuronal, ça a un impact grave, en fait, vraiment. Donc déjà, si il y a une prise de conscience de la part de ces adultes qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les enfants ou les adolescents, ou après bien sûr avec les adultes, c'est clair, déjà ça sera un grand point de gagner.
Mario de Binet, le mot de la fin.
Alors la maltraitance, en fait, c'est quand même une atteinte physique ou psychologique à l'intégrité de l'enfant et de manière répétitive. Si un jour vous dites à votre enfant « t'es nul » et qu'après vous venez vous excuser en disant « excuse-moi, là c'est pas de la maltraitance ». Mais si c'est tous les jours ou plusieurs fois par jour pendant des années, là on en vient à de la maltraitance. Pareil avec les gestes physiques, etc. Et c'est vrai que dans le corps professoral, il peut y avoir cette maltraitance en classe. Le fait de mettre un enfant tout le temps systématiquement au fond, de lui dire de se taire en permanence parce qu'il dit que des bêtises, etc. Donc l'adulte, en fait, est amené aujourd'hui à prendre conscience que ce qu'il fait à l'enfant, c'est comme si, quelque part, il se le faisait aussi à lui-même. Est-ce qu'il aimerait qu'on le traite comme ça? Non. Donc l'enfant est une personne, il ressent les choses et il les intègre, c'est-à-dire que ça reste. Le cerveau, il enregistre. Donc il enregistre les impacts négatifs et positifs. Alors si on peut développer le positif, encourageons nos enfants, soutenons-les dans leur unicité, dans tout ce qu'ils savent faire.
Pour finir, 2-3 pistes de lecture. Élever son enfant de 0 à 3 ans par Marcel Ruffo et Christine Schilt. Le livre apparaît donc de Boris Cyrulnik, Préparer les petits à la maternelle, aux éditions Odile Jacob. Et le premier était aux éditions Hachette. Et vous avez parlé aussi d'un autre livre de Boris Cyrulnik au début de l'émission.
Oui, Les nourritures affectives.
Dans le micro.
Les nourritures affectives, qui est un peu plus ancien, mais qui reste vraiment d'actualité.
Voilà, merci beaucoup à vous et prochain rendez-vous dans quelques semaines pour cette émission Vie de couple, Vie de famille. Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.